Alors, je vois qu'il y a au moins deux éditions différentes. Vous avez laquelle, monsieur? C'est celle-ci aussi? D'accord. Et... Bien. Alors, j'ai recommandé cette édition, d'abord parce qu'elle est disponible. Lorsqu'on demande à la librairie de commander des livres, on en commande 20 ou 30 ou 40, je ne sais pas, et il faut qu'en France, il y ait un stock. Alors si on tombe sur un moment où il n'y a pas de stock, on est très embêté. Et puis, je connais très bien le professeur qui a préparé cette édition, Pierre-Louis Ray, qui est un de mes anciens professeurs de Paris 3. Et donc, j'ai tout à fait confiance en lui et sa façon de présenter le travail. Et puis, c'est une édition assez récente aussi, donc elle offre beaucoup d'avantages. En même temps, elle complète ce que je ne pourrais pas faire, c'est-à-dire un résumé, une vue d'ensemble du livre, puisque, comme d'habitude, on va essayer toujours de rester proche du texte et de faire du commentaire de texte sur des, sur des parties de texte, sur des morceaux de texte relativement brefs. Je choisis toujours trop long, mais on y arrive quand même. Il y a des questions ou des problèmes sur cette édition ou sur d'autres éditions? Il y en a beaucoup, hein, pour l'éducation sentimentale. Et puis, j'utiliserai également dès aujourd'hui une autre édition qui est l'édition électronique, c'est-à-dire disponible sur Internet. Là aussi, il y a plusieurs éditions disponibles, à commencer par, je pense que historiquement, ça devait être Frantexte, mais Frantexte n'est pas directement disponible, donc après c'est dans le site Gallica, et puis l'association des bibliophiles, depuis longtemps, l'avait mis en ligne. Et depuis quelques années, depuis déjà au moins 5 ou 6 ans, il y a l'édition la plus utile, la plus pratique pour nous, bonjour, qui est sur un site internet qui s'appelle Intratexte ou Intratexte, parce que c'est un site d'origine italienne et principalement consacré à des œuvres religieuses, des œuvres et des textes religieux, mais avec un choix, une sélection d'œuvres de la littérature mondiale, et une sélection qui a été bien préparée, dans le but d'offrir, comme les religieux le font depuis très très longtemps, une possibilité d'étudier les termes dans différentes œuvres pour préparer des gloses, des explications de textes religieux. Alors donc ce texte, ce site s'appelle Intratexte. Vous aurez l'adresse tout à l'heure sur un document que je vous donnerai, mais je vais tout de suite la mettre ici. Voilà, ils avaient choisi .com, comme si c'était une activité commerciale, mais je crois que c'est pas du tout commercial. Et alors ce site est très pratique parce que il offre la possibilité de cliquer sur des mots pour obtenir l'ensemble des occurrences du mot dans le texte. Et d'autres fonctions évidemment qui sont très très utiles pour nous. Et alors grâce à cette édition disponible, j'ai pensé à ajouter un petit moment particulier dans le cours chaque semaine que j'appellerai l'aventure d'un mot. Bien sûr, ce sera l'aventure d'un mot dans l'éducation sentimentale. Et cette semaine, ce sera le mot « héritage » qui se trouve déjà présent dans les premiers paragraphes et pour lequel je vous donnerai tout à l'heure une double page comme ça d'occurrence du mot « héritage » et d'autres mots, bien sûr, de la famille ou du champ lexical. Alors, on va commencer, hein, 10h03. S'il y a des retardataires, ça n'est pas grave. Bien, je pense que vous connaissez l'éducation sentimentale depuis fort longtemps déjà, que vous l'avez tous et toutes lu au moins une fois ou deux en japonais, en français, les deux, etc. Et néanmoins, vous avez éprouvé le besoin de venir à ce cours, le besoin ou l'envie ou le loisir. Et puis, cela correspond également à une promesse que j'ai faite à certains d'entre vous il y a 2 ans. Après le cours sur Madame Bovary, j'avais dit que oui, je ferais l'éducation sentimentale, mais il faudrait attendre un petit peu. Parce qu'il y a d'autres choses, et puis c'est pas facile à préparer, c'est un gros morceau, comme on dit, et on va essayer. Voilà. Alors n'hésitez pas à m'interrompre, à me questionner, à me reprendre et à m'indiquer vos idées personnelles sur telle ou telle notion, terme, etc. Je ne parlerai pas spécialement de Flaubert, vous avez des milliers d'explications partout, sauf pour dire qu'il est né dans les années 1820, c'est la génération 1820, c'est-à-dire la première génération après la disparition de Napoléon Bonaparte. Alors que Balzac, par exemple, auquel on peut un peu comparer Flaubert sur certains points, est né au début du XIXe siècle et il a donc grandi dans la période républicaine, impériale, napoléonienne. C'est déjà une grosse différence entre les deux, hein, de même que Stendhal. Et puis Flaubert est mort en 1880, c'est-à-dire après la fin du Second Empire, et bien sûr lorsqu'il écrit l'éducation sentimentale, commencée dans les années 1860, il ne sait pas encore que le Second Empire va se terminer bientôt. Mais bon, on peut le sentir, de toute façon, ça doit changer un jour. Et pour la première édition, donc, qui est en 1869. Alors, 69, hein, c'est juste avant 70, donc il y a de grands changements. Et la deuxième édition de l'éducation sentimentale, qui est considérée comme l'édition de référence pour les chercheurs, les travailleurs du texte, c'est 1879, donc là, quelques mois avant la mort de Flaubert, mort soudaine, hein, c'est pas une longue maladie que l'on voit venir, hein, c'est une mort très rapide de problèmes du cerveau, embolie cérébrale, comme on dit. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait pu le sauver, hein, on dit que si on peut l'amener à l'hôpital dans les 2 premières heures... ça peut le faire. Et donc il n'y a que 2 éditions du vivant de Flaubert, à la différence d'autres œuvres, en particulier Madame Bovary, où il y a 6 éditions plus ou moins retouchées par Flaubert lui-même. Donc là, on n'en a que 2, et on considère 79 comme le texte de référence. Alors bien sûr, 79, pour le coup, c'est après la chute du Second Empire, c'est la Troisième République, et pour Flaubert, c'est une autre façon de revoir son texte, hein, écrit avant ce changement. Alors peut-être que de temps en temps, dans le commentaire du texte, nous aurons la possibilité de faire jouer cette historicité, hein, cette histoire, dans le sens des mots ou des événements du texte. Venons-en au titre, l'éducation sentimentale. Alors finalement, le titre est devenu tellement banal que on n'a plus l'habitude de l'interroger. Qu'est-ce que ce titre signifie précisément? Et comme d'autres chercheurs l'ont fait remarquer, dont Yvan Leclerc, par exemple, qui était invité au Bungakai il y a 2 ans, je crois, qui est donc professeur à l'université de Rouen et qui s'est occupé récemment du gros dossier de la mise en ligne sur Internet des manuscrits de Madame Bovary, dont on avait parlé il y a 2 ans. Bonjour. Et Yvan Leclerc m'a dit qu'il y a un projet actuellement, un projet en cours de préparation pour une mise en ligne sur Internet des manuscrits de l'éducation sentimentale. Actuellement, je crois qu'il y a un chapitre sur Internet avec une étude génétique, mais un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour Madame Bovary, l'éducation sentimentale est en chantier, hein, manuscrit, sur Internet. Alors, ce titre avait déjà été utilisé une première fois par Flaubert dans une œuvre de jeunesse. Je ne commenterai pas parce qu'on perdrait du temps et parce qu'il n'y a pas ou très très peu de relation entre cette œuvre de jeunesse et le roman dont nous allons parler. Flaubert a longtemps hésité pour choisir ce titre et il l'a choisi un peu par défaut, en dépit de ne pas en trouver un meilleur. Il avait pensé à d'autres choses, un titre par exemple comme Les fruits secs. Les fruits secs. Imaginez des abricots séchés ou des raisins séchés, bon, qui serait bien sûr une métaphore du jeune homme qui n'a pas réussi à la façon du Rastignac de Balzac, par exemple. Si on peut dire que Rastignac a réussi, puisque ça ne dure pas, ces choses-là. Donc, et puis, il avait demandé à d'autres personnes, par exemple à George Sand, il s'écrivait assez très souvent, vous savez sans doute, et bon, par défaut, quoi, il a repris ce titre, Éducation sentimentale, et alors il a ajouté le sous-titre, hein, que vous avez pas partout, qui est l'histoire d'un jeune homme. Et par exemple ici dans l'édition, ben, ça manque, hein, c'est pas marqué l'histoire d'un jeune homme. Alors c'est marqué dans des explications plus loin. Histoire d'un jeune homme, c'est bien banal, hein. Et bon, ça rentre dans la tradition déjà du présent de Flaubert, la tradition des romans qu'on appelle romans d'éducation, romans d'initiation, romans de formation. Il y en a beaucoup en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc cette histoire d'un jeune homme est une sorte de genre, ce qu'on appelle une valeur générique. L'éducation sentimentale, donc, le faisait remarquer déjà des chercheurs, dont Yvan Leclerc, est une sorte d'impropriété grammaticale. Grammaticalement, on hésite entre deux sens qui sont deux sens de la relation possible entre le nom « éducation » et l'adjectif « sentimental ». En effet, la valeur grammaticale de l'adjectif peut être de deux sortes. Soit c'est l'éducation qui est sentimentale, soit c'est les sentiments d'une personne qui reçoivent une éducation. Alors, Yvan Leclerc dit éducation des sentiments ou éducation par les sentiments. Mais de cette façon, ce n'est pas du tout équivalent et c'est même contraire. D'un côté, c'est l'éducation qui va éduquer les sentiments. Alors les sentiments, une espèce de choses comme ça qu'on a du mal à maîtriser, et l'éducation va permettre de les maîtriser. Ça serait très bien. C'est vraiment un sens initiatique de formation. Et l'autre sens, c'est l'éducation par les sentiments. Donc ce sont les sentiments qui font l'éducation de la personne. Et alors là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Parce que justement, être d'une nature sentimentale, de ne pas pouvoir maîtriser ses sensations, sa sentimentalité par rapport à des événements, des choses de la vie, eh bien, c'est très très problématique. Et surtout, ça empêche d'avoir une véritable ligne de conduite, comme on dit, ou une éthique, une morale, une action continue, etc., etc. Alors bon, ben, le choix des sens se fait lui-même. Lorsqu'on connaît le texte, on voit bien que ça va être malheureusement le mauvais sens qui sera celui du titre. Ce jeune garçon ne va pas réussir à avoir la fermeté, la droiture ou la constance d'ambition, par exemple d'un Rastignac, hein, puisqu'on disait tout à l'heure avec ce personnage de Balzac, et il va avoir bien sûr des désirs, des velléités, des capacités aussi, mais pas assez de constance, de continuité, d'endurance dans les problèmes, et toujours il va céder, abandonner, se mettre sur le côté, ne pas y aller quand il faut y aller, etc., etc. Il sera victime de ses sentiments. Et dans ce sens, George Sand commentait, donc peu de temps après la publication, dans les années 60, 70, elle commentait en disant que c'était malheureusement l'histoire d'un jeune homme qui était victime de son tempérament, qui voulait être une sorte de leader, comme on dit aujourd'hui, hein, dans la société, et qui est devenu simplement une partie de la société, c'est-à-dire entraîné, roulé dans les événements, comme nous le sommes peut-être un peu tous et toutes. Hein. Les héros sont de plus en plus difficiles à trouver. Et donc, au choix de Balzac, disons, d'un roman avec des héros, volontaires, forts, gagnants, le choix de Flaubert, de anti-héros, déjà à la façon de Charles Bovary ou d'Emma, c'était pas mieux. Et donc son Frédéric Moreau. Des commentaires sur ce titre en japonais, c'est clair ou c'est ambigu?
C'est très ambigu.
Très ambigu aussi.
Ouais, très bien. On dit très bien. Mais c'est ça me dit.
Voilà, donc c'est bien. Voilà. C'est bien choisi alors.
Oui, c'est ça.
Tant mieux. Parfois la traduction des titres est simplifiée ou à cause de problèmes de la langue, on ne peut pas retrouver l'ambiguïté ou la bizarrerie. Donc on choisit par dépit un titre plus simple. Mais alors, dans ce cas-là, c'est très bien. Voilà, donc j'ai dit que le texte était écrit dans les années 1860, et on va voir dès le début du texte que celui-ci commence par une date. Alors c'est toujours très important, cette date qui est mise dans la première phrase, dans la première ligne, c'est quelque chose qui est porté, hein, c'est une sorte de marque ostentatoire d'une époque, d'un moment particulier, et il faut absolument en tenir compte. On ne peut pas faire comme des romans qui commencent par « Il était une fois » et qui ensuite précisent des dates éventuellement. Mais ici, elle vous est en quelque sorte jetée à la figure, hein, dès que vous ouvrez le texte. Alors ça arrive comme ça, et vous vous dites tout de suite « Mais 1840, qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, c'est quelle époque, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc il y a vraiment une volonté de Flaubert de fixer dans l'histoire tout de suite une date. Ce n'était pas le cas de Madame Bovary, hein, évidemment. Ce n'est pas le cas non plus de Bouvard et Pécuchet, je crois. Bouvard et Pécuchet commencent par deux hommes qui s'assoient sur un banc, boulevard Bourdon à Paris, au mois d'août, quand il fait très chaud. Mais je ne suis pas sûr que l'année soit indiquée. Je n'ai pas à vérifier comme ça, mais bon. Alors, ici, on va commencer au quai Saint-Bernard, où les bateaux à vapeur attendent les voyageurs. Le quai Saint-Bernard se trouve exactement devant, ou derrière, je ne sais pas comment vous dire, le jardin des plantes. Donc, bon, tout le monde connaît le jardin des plantes. On vient d'Austerlitz, on passe devant le jardin des plantes, on va vers l'université Paris 7, hein, aujourd'hui, et l'Institut du monde arabe. Eh bien, sur ce bord de Seine, qui est maintenant une sorte de musée à ciel ouvert, avec des œuvres comme ça, c'est le quai Saint-Bernard, précisément. À cet endroit, il y avait des boutiques, des tas de sable débarqués par les bateaux, etc. Donc c'était le commerce fluvial, l'utilisation du fleuve comme un moyen de transport. 1840, on a dit. Les trains, les compagnies de trains que nous connaissons aujourd'hui très très développées, ne font tout juste que commencer. Il doit y avoir en 1839 l'ouverture d'une ligne Paris-Versailles et l'ouverture d'une ligne Paris, une autre ville dans une autre direction, mais c'est pas Montereau, mais c'est un peu dans cette direction. Enfin, en tout cas, c'est pas le long de la Seine comme ça. Et donc dans d'autres pays, évidemment. Et puis la ligne Paris-Orléans, qui commence à être célèbre. Et la première ligne qui allait au bord de la mer, la plus proche. Bon, donc c'est en plein développement. Et on peut imaginer que peut-être c'est un petit peu plus rapide que le bateau. Surtout que dans ce sens-là, alors où est-ce qu'il va ce bateau? Il va vers Montereau. Montereau, ça se situe en amont de Paris, c'est-à-dire en remontant vers la source de la Seine. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas suivre le courant. Hein, il faut aller contre le courant. Donc, on a besoin soit de voile, un bateau à voile. Ce n'est pas toujours pratique à manier sur un fleuve. Soit de chemin de halage pour tirer les bateaux. Alors, vous pensez au célèbre poème de Rimbaud, je ne me sentais plus tiré par les haleurs. Hein, ce sont des gens qui tirent les péniches le long des canaux ou des rivières. Deuxième moyen. Et troisième moyen, c'est le moteur. Le moteur à vapeur, bien sûr, avec du charbon. Hein, il y a deux, trois petites indications sur ce sujet dans ce premier chapitre. Et on comprend que c'est un bateau relativement moderne, avec un moteur, avec des cheminées qui font sortir une fumée noire. Alors aujourd'hui, ça serait très mal connoté, hein, cette fumée noire. Oh là là, l'environnement, la planète, etc. Bon, 1840 ou 60, ça n'existe pas. C'est une marque positive du développement industriel, hein, bien plus tôt. Bon, même si déjà, les romantiques, dès les années 1810, 20, 30, avait pointé, dénoncé l'espèce de saleté, hein, pour la planète et pour l'être humain, qu'était le développement industriel, à commencer par celui de l'Angleterre, bien sûr, plus puissant que celui de la France à ce moment-là. La France est quand même restée un pays majoritairement rural, hein, de paysans, alors que l'Angleterre s'était engagée dans le développement industriel plus tôt. Et les romantiques, donc, si j'en parle, eh bien, on va retrouver des attitudes romantiques chez Frédéric, mais une sorte de romantisme, comment on pourrait dire, romantisme de seconde main, romantisme dégénéré, sans les idées fortes des romantiques, mais une sorte de résidu, un peu plutôt de faiblesse romantique, qui va aller du côté de la sentimentalité, précisément. Donc, un petit peu du mauvais côté du romantisme. Donc ça nous donne comme ça un petit contexte sur 1840. Alors bon, on pourrait dire que Flaubert aurait pu choisir 39 ou 41. Hein, alors pourquoi précisément 40? Alors là, bon, il faut se plonger un peu dans les chroniques pas journalière, mais presque. 1840, d'abord, bon, par rapport au romantique, c'est vraiment la fin du mouvement romantique en tant que mouvement littéraire ou intellectuel. Et puis alors, comme événement particulier, on peut en rassembler deux qui semblent peut-être avoir une importance politique, on va dire. D'abord, le débarquement raté de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire le futur premier président de la Deuxième République, premier et unique d'ailleurs, et second empereur. Alors Louis-Napoléon Bonaparte, qu'on appellera Napoléon III, est un jeune homme plein d'énergie qui souhaite en quelque sorte hériter de la famille et du pouvoir de Napoléon Ier, mais qui est exilé. Depuis une loi des années 20, il n'a pas le droit, sa famille n'a pas le droit d'habiter en France, donc ils habitent à l'étranger. Mais bien sûr, il souhaite revenir. Alors il va tenter une première fois d'entrer à Strasbourg, de soulever un peu des militaires. Il y a un copain à lui, enfin un copain entre guillemets, hein, qui est déjà là, et ça marche pas du tout. Il se retrouve en prison et dans un bateau pour les États-Unis. Bon, il revient des États-Unis et il prépare un peu mieux son affaire, et donc il essaye de débarquer, cette fois sur la côte, et là encore, il est pris et mis en prison. Et cette fois, on le garde en prison jusqu'au jour où il arrive à s'évader. Bon, mais en 1840, c'est la tentative de débarquement, donc ratée. Et là, pour cette même famille Napoléon, pourquoi en fait il a choisi précisément cette période? Parce que la même année, un peu plus tôt, on a rapatrié les cendres de Napoléon Ier, qui était un peu mise de côté, hein, on n'en voulait pas. Et on a décrété que Napoléon Ier serait, comment dire, conservé de façon prestigieuse, solennelle, aux Invalides, où il est toujours. Alors cette espèce de décision bizarre, hein, du point de vue politique, mais très soutenue par le peuple, popularité comme ça, 30 ans après, 25 ans après, c'est un mouvement sur lequel, comme on dit aujourd'hui, Louis-Napoléon va essayer de surfer, hein, surfer sur la popularité de quelque chose. Et bon, ben ça ne marche pas. Enfin, c'est en 1840. En 1840, il est également question de la conquête de l'Algérie, qui a commencé dans les années 30. Et ça commence à occuper beaucoup les journaux, parce que, bon, on a réussi un petit peu à s'installer, mais il se trouve que autour d'un chef très très fort et charismatique, hein, comme on dit, qui s'appelle Abdelkader, ça résiste très fort en Algérie, et alors il faut prendre, cette année-là, il faut prendre la décision de partir ou de rester. C'est un peu comme Obama aujourd'hui en Irak, il faut décider de partir ou rester. Bon, alors j'espère que le prix Nobel qui lui a été donné va l'aider à partir, mais partir, c'est pas facile non plus, hein, parce que voilà, dans quel état on laisse les choses. Et en Algérie, c'est tout à fait la même chose. Et alors, si on prend comme modèle l'Algérie pour Obama, ça va pas être agréable, hein. Parce qu'on est encore dans le problème, évidemment, de la colonisation et de la décolonisation. Ça, c'est typiquement un problème de 1840 et de ces années-là. Également, une personne fait son entrée au gouvernement, et une entrée, disons, discrète, c'est Guizot, qui s'appelle Guizot, G-U-I-Z-O-T, et Guizot, de son prénom François, hein, c'est ça, François Guizot. D'abord, il est très connu parce qu'il a déjà écrit pas mal de livres d'histoire, politique, un peu littérature. Bon. Et il va devenir ministre de l'instruction publique. Donc avant Jules Ferry, il va commencer à faire des écoles. et d'une façon très très sérieuse qui va véritablement démarrer le mouvement national d'instruction publique à cette époque. Et en même temps, il va être dans l'ombre du Premier ministre, et on dit que pendant 7 ans ou 8 ans, c'est plutôt Guizot qui est chef du gouvernement, quoi, derrière le Premier ministre, entre guillemets, de l'époque. Et justement, il sera question de Guizot, hein, à la fin de ce premier chapitre. On demande à Frédéric, hein, qui revient de son voyage, « Et alors, qu'est-ce que vous pensez du dernier livre de François Guizot ?» Bon, je ne suis pas sûr qu'il en pensait quelque chose après 15 heures de voyage, parce que je ne sais pas si vous avez compté, mais c'est assez long ce voyage. Hein. Petit voyage, aujourd'hui on fait ça en une heure d'autoroute, hein. Paris, Nogent-sur-Seine. Voilà, et puis également 1840, on a inauguré la colonne de Juillet. Alors la colonne de Juillet, c'est la colonne que vous voyez au milieu de la place de la Bastille. Elle est inaugurée pour commémorer, c'est-à-dire fixer la mémoire, et officiellement reconnue par les autorités, de la Révolution de 1830. Qui a permis, entre guillemets, l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe. Nous sommes donc dans le règne de Louis-Philippe, Louis-Philippe d'Orléans, donc la branche d'Orléans, pour une fois, et qui est considéré, enfin qui n'est pas considéré, qui est nommé roi des Français, et non pas roi de France. Une particularité bizarre, c'est-à-dire que la France n'a plus cette notion de territoire dominé par un roi, mais c'est le peuple, l'ensemble des citoyens, alors, ou des sujets, dont il est le roi. C'est toujours le terme actuellement, en Belgique par exemple. Le roi belge est le roi des Belges, il n'est pas le roi de la Belgique. Et ils ont bien raison, parce que le territoire de Belgique, on ne sait pas ce qu'il est, ni ce qu'il va devenir dans l'avenir. Et donc, être roi des Belges, à la limite, ça peut être n'importe où. Même dans une diaspora à travers le monde, avec Internet, on peut rester roi des Belges. Donc, ça, c'est moderne. Voilà, alors je vous lis le premier et le deuxième paragraphe, pour qu'on entre un peu dans le ton. Le 15 septembre 1840, vers 6 heures du matin, la ville de Montereau, près de partir, fumait à gros tourbillon devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine. Des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation. Les matelots ne répondaient à personne. On se heurtait. Les colis montaient entre les deux tambours. Et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui, s'échappant par les plaques de tôle, enveloppait tout d'une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l'avant, tintait sans discontinuer. Voilà donc une activité extraordinaire à 6 heures du matin sur le quai Saint-Bernard. On imagine pas ça aujourd'hui, où il n'y a que quelques joggeurs qui passent à cet endroit. Ça veut dire que tout ce commerce fluvial était une activité très importante, très intense, et que les voyages étant assez longs, il fallait quand même partir très tôt le matin. Donc à 6 heures du matin, le bateau est prêt à partir. Alors il s'appelle la ville de Montereau, pourquoi pas. Sur le manuscrit que l'on peut voir sur le site Gallica, vous pouvez aller... On peut lire que Flaubert a ajouté, donc il avait mis la ville de Montereau, et il a ajouté le petit navire, la ville de Montereau. Et puis il l'a enlevé après, parce que ça devait être assez clair. Pourquoi c'est clair? Parce que près de partir, fumait à gros tourbillon devant le quai. Qu'est-ce qui fume devant un quai? Bah, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un train à vapeur, mais bon, à l'époque, c'était un bateau à vapeur. Et le quai Saint-Bernard, évidemment, est quand même un nom assez bien connu d'un quai de la Seine. Ensuite, le deuxième paragraphe est formé d'une énumération. Énumération en apparence un peu désordonnée de choses, de gens, de bruits, de vapeurs, bon, qui représente bien une sorte d'énumération mimétique, hein, qui mime l'agitation juste avant le départ du bateau. Alors, on y reconnaît des gens qui arrivent hors d'haleine, c'est-à-dire en courant, et qui ont du mal à reprendre leur respiration. Des barriques, des corbeilles, ce sont des choses à transporter. Hein, aujourd'hui, on dirait du fret. Et bien sûr, des matelots, mais des matelots très occupés à la manœuvre, donc ils ne répondent à personne. Sans doute y a-t-il des gens qui cherchent à comprendre où il faut aller, ce qu'il faut faire, et qui posent des questions. Donc tout ça fait beaucoup de bruit. On se heurtait, parce qu'on va dans des sens différents, hein, qui est bien une marque de la nervosité, et quand même, les colis montaient entre les deux tambours, et le tapage s'absorbait. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux tambours ? On n'a pas aujourd'hui une image très précise de ce qu'étaient ces bateaux, et pour ma part non plus. Donc j'ai cherché quelques explications de ce mot tambour, et j'ai vu au moins deux explications possibles. Soit c'était l'espace vide par lequel on pouvait faire descendre les marchandises, parce que ça s'appelle tambour à côté de l'écoutille, hein, pour descendre les marchandises, soit c'était des sortes de toits courbes, comme ça, de tentes, qui permettaient d'abriter les passagers. Et alors, dans un sens ou dans l'autre, on peut comprendre à peu près que les marchandises montaient entre les deux tambours, ça serait plutôt entre les deux tentes de passagers pour être chargées sur le pont et éventuellement dans la cale. Donc là-dessus, si quelqu'un a des précisions ou trouvé des images d'un bateau de 1840, ça m'intéresserait. Hein, je ne suis pas spécialiste absolument de ce domaine. Bon, en tout cas, les colis montaient, hein, c'est quand même le sens principal. Et le tapage, donc là c'est le bruit avec la vapeur, s'échappant des plaques de tôle, ça veut dire que le bateau est entièrement ou en partie métallique, opposé bien sûr au bateau en bois, donc c'est une forme de modernité industrielle presque, hein. Enveloppait tout d'une nuée blanchâtre. Alors ce enveloppait tout commence dans la phrase une sorte de distanciation pour un petit peu voir l'ensemble. Hein, on commence un petit peu à envelopper l'ensemble, à avoir une vue d'ensemble juste avant le départ qui est marqué par le tintement de la cloche. Alors cette cloche qui teinte sans discontinuer, hein, on peut imaginer que ça énerve un petit peu les gens, ça participe à l'énervement général. Et le commencement du troisième paragraphe est une sorte de soulagement pour tout le monde, y compris pour le lecteur. Enfin, le navire partit. Et les deux berges, donc on voit ici bien des formes grammaticales en quelque sorte maltraitées par Flaubert, hein, puisque ce « et » après les deux points n'est pas correct selon les grammairiens. Cependant, il faut l'entendre comme une sorte de pause et reprise. Enfin, le navire partit et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d'usines, filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule. Deux larges rubans que l'on déroule, voilà une comparaison qui démarre le mouvement du bateau. Mouvement comme deux rubans que l'on déroule. Alors c'est une comparaison qui marque bien le fait que les passagers ne font rien. Un ruban que l'on déroule, donc c'est une sorte de mouvement qui se fait comme ça, grâce à la machine, Et les gens ne font rien, ce sont des passagers, des clients. Alors ces deux berges, vous les connaissez sans doute, hein, je pense que tout le monde est allé au moins une fois ou plusieurs à Paris. Ce sont d'un côté, du côté de la Bastille, hein, rive droite, et la colonne donc est là, ou presque là déjà, et c'est là que va commencer Bouvard et Pécuchet, hein, un petit peu après, sur cette rive droite, juste en face du quai Saint-Bernard. Et puis, rive gauche, on va passer près d'Austerlitz, donc la gare d'Austerlitz existe déjà, puisque la ligne, j'ai oublié le nom de la station, mais enfin, elle a commencé en 1939, donc la gare existe. Et puis après, la ligne sera prolongée jusqu'à Orsay, la gare d'Orsay, qui sert aujourd'hui de musée. Donc on part vers, à ce moment-là, c'est vers le sud, et puis ensuite la Seine va faire des méandres pour aller vers l'est. Donc Nogent-sur-Marne se trouve au sud-est de Paris, et bien sûr le bateau ne va pas jusqu'à Nogent, il va jusqu'à Montereau, où il faudra changer. Excusez-moi, un peu chaud. Alors on arrive là, à la fin de ce troisième paragraphe, sans connaître personne, hein, finalement. C'est les préparatifs d'un démarrage, et puis hop, c'est parti. Il n'y a aucune personnalité qui soit apparue. Et d'un seul coup, dans les deux paragraphes qui suivent, se trouve introduit d'abord un jeune homme, et puis au paragraphe suivant, Monsieur Frédéric Moreau. Donc on a là une focalisation sur un personnage. Ce jeune homme, on nous dit dans ce début du deuxième, enfin du deuxième paragraphe, Monsieur Frédéric Moreau, en bas de la page, nouvellement reçu bachelier, donc je ne sais pas exactement quel âge il peut avoir, enfin une petite vingtaine d'années, hein, à peu près. Alors quand même, il faut penser que en 1840, Flaubert lui-même avait à peu près cet âge-là. Alors, je ne pense pas que Flaubert soit tout à fait identifié dans Frédéric Moreau. Je pensais à Gustave. C'est énervant, ce peintre. Donc, Frédéric Moreau n'est pas Flaubert. Mais, ils ont le même âge. Alors, pour Flaubert, ce n'est pas une façon de se mettre en scène, sauf peut-être quelques détails des événements qu'il a vécu, mais c'est une façon de revisiter l'histoire. Et c'est ça qui sera particulièrement intéressant, en quelque sorte en avouant que lorsqu'on a 18 ans ou 20 ans, on ne voit pas du tout dans quelle époque on est, l'histoire autour de nous, et je crois que ce n'est pas propre à Flaubert, mais que c'est propre à tout le monde, que nous avons tous eu 18 ans, 20 ans, à peu près sans rien comprendre de la situation historique où nous étions. Et peut-être que 20 ans après, comme dit Dumas, il est toujours bon de regarder en arrière, donc dans l'après-coup des événements, tiens, quand j'avais 20 ans, alors c'est ça qui s'est passé, et donc j'aurais dû faire ça, ou j'aurais... Enfin bon, on peut... Alors cette façon de choisir, hein, donc la date, le jeune homme... Il y a quand même une similarité. Un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms. Puis il embrassa, dans un dernier coup d'œil, l'île Saint-Louis, la cité Notre-Dame, et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Qu'est-ce que c'est que ce grand soupir? C'est le grand soupir d'un gros bébé triste qui ne peut pas rester à Paris. Il voudrait, il rêve de ça, comme tous les jeunes gens de cette époque, et il voit, enfin il sait que c'est Paris, il ne connaît même pas les noms des édifices, donc il n'est pas parisien, il n'est pas déjà venu, hein, voyez, il ne connaît rien, mais il sait que c'est Paris. Et bon, bah, l'île, hein, il connaît le nom de l'île Saint-Louis ou l'île de la Cité. La cathédrale, il la reconnaît aussi. Mais en dehors de ça, il ne connaît rien. Oh, il faut partir. Et autre chose, hein, c'est « je reviendrai hein, ». I'll be back. Bon. Alors, comment il est ce jeune homme de 18 ans, longs cheveux et qui tenait un album sous son bras? Alors, un album... J'ai vérifié aussi différents sens hein, du mot dans le TLF, le trésor de la langue française. Album, ça a plein de sens, mais pour un jeune homme de cette époque, c'est une sorte de carnet ou de carton à dessin. Et en effet, il se prétend plus ou moins vaguement artiste. Le vaguement restera toute sa vie sur toutes ses activités, donc... Un album sous son bras. C'est, vous voyez, par rapport aux personnes qui vont être décrites après, des ouvriers, etc., des ébénistes, bon, il apparaît comme une sorte de bourgeois, jeune, bien habillé, avec des cheveux longs. Hein, ça aussi, je ne sais pas si les ouvriers peuvent garder les cheveux longs, ça m'étonnerait. Restait auprès du gouvernail, immobile. Alors le gouvernail se trouve sans doute à l'arrière, hein, et puis c'est l'emplacement d'où on dirige le bateau, d'où on oriente le bateau. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va orienter quelque chose, ou simplement il oriente le texte? La proximité du jeune homme et du gouvernail nous donne une idée sur le fait qu'il est personnage principal. Bon. Petite exagération de ma part, hein, mais c'est quand même là. Et surtout, peut-être, l'adjectif immobile est intéressant. Placé à la fin, par Flaubert, comme Flaubert aime le faire, c'est-à-dire en ne respectant pas, là encore, hein, les règles grammaticales qui veulent que, lorsqu'un adjectif finit comme ça la phrase, il y a un « et » avant. Hein, ou non pas une forme de parataxe comme ça collée. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, donc bien sûr on est à 6 heures du matin, hein, le jour n'est même pas encore levé, à 6 heures, oui, 15 septembre, bon, c'est très très pâle. Hein. Et donc il embrassa dans un dernier coup d'œil, donc là on reprend le mouvement. Si vous voulez, de la vapeur hein, qui enveloppait tout dans une nuée blanchâtre, on a une sorte d'équivalence avec le brouillard et le coup d'œil qui à nouveau enveloppe. Donc pour le lecteur, c'est une première puis une deuxième distanciation hein, du départ comme ça de Paris. Voilà, des édifices dont il ne savait pas les noms, c'est une façon très intelligente de Flaubert de dire que ce jeune homme ne connaît pas Paris, sans le dire. Et bientôt, donc la phrase finit par deux points, encore une fois repris par « et bientôt », donc c'est déjà la deuxième fois en deux paragraphes, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Alors c'est vrai qu'en relisant les commentaires de Georges Sand hier, à un moment je me disais... Oui, bon, est-ce que c'est vraiment si extraordinaire? Dans ses commentaires, elle dit que Flaubert a vraiment une façon très particulière, très spéciale, très originale, avec le travail de modifier la langue aussi. Déjà, Georges Sand, hein, tout le monde le sent évidemment, mais beaucoup n'étaient pas tellement amateurs de ça. Ils auraient préféré respecter les règles de grammaire. Donc, Georges Sand sous-entend que ça sera difficile pour Flaubert d'être vraiment aimé du public parce que ce qu'il fait est un peu violent, un peu dur avec la langue. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus tout à fait cette sensation. La première image que vous avez de Flaubert, ici comme en France, c'est d'abord, waouh, grand maître de littérature. Donc, dès qu'on ouvre le livre, tout ce qu'il y a dedans, c'est fantastique, c'est merveilleux. Mais bon... Il y a 150 ans, c'était pas du tout comme ça. C'était pas du tout gagné pour Flaubert. et il est resté un auteur pas très aimé, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est après que ça va commencer à changer, évidemment, avec les études littéraires, plus ou moins autour de la nouvelle critique, du nouveau roman qui va bien aimer Flaubert, etc., etc. Vous connaissez sans doute cette histoire. Monsieur Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent-sur-Seine où il devait languir pendant 2 mois avant d'aller faire son droit. Donc on est dans une sorte de période de transit, un peu comme le voyage en bateau lui-même est un transit pendant lequel on ne peut rien faire. Il est dans un transit de 2 mois entre la fin des études secondaires, comme on dit aujourd'hui, hein, qui mène au baccalauréat, et le début de ce qui serait alors aujourd'hui une licence de droit hein, à l'université. À l'époque, c'est un peu différent, mais enfin, on peut estimer une sorte d'équivalence. Et en italique, l'expression « faire son droit », parce que c'est une expression tout à fait figée. Cette expression figée, en même temps, est une sorte de topos littéraire. Topos, ça veut dire une situation très courante que beaucoup de livres mettent en scène, une sorte de thème littéraire que l'on va retrouver chez beaucoup d'auteurs, et à commencer par Balzac, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure. Sans doute, hein, il y a une équivalence, enfin, une sorte de volonté de Flaubert de montrer une sorte d'anti-Rastignac. Hein, donc, avec quelqu'un qui fait son droit, mais qui ne sera pas un héros. Sa mère, avec la somme indispensable, l'avait envoyé au Havre voir un oncle dont elle espérait pour lui l'héritage. Il en était revenu la veille seulement et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale en regagnant sa province par la route la plus longue. Alors, la somme indispensable, cela veut dire qu'on ne lui a pas donné plus d'argent que nécessaire. Alors pour un bourgeois, c'est un peu dommage. Il aurait pu en profiter. Ça veut dire aussi que sa maman n'est pas très riche. Et alors, pourquoi, quelle est cette situation? On va trouver ça à la page 29. Je vous y invite tout de suite, hein, puisque on n'est pas obligé de lire le texte dans sa continuité. À la page 29, lorsqu'il arrive en fait chez lui, Flaubert nous donne le portrait ou des indications sur sa maman, Madame Moreau. Donc en haut de la page 29, deuxième paragraphe, à 9h sonnait à Saint-Laurent lorsqu'il arriva sur la place d'armes devant la maison de sa mère. Donc il arrive à 9h. Alors, comme je le dis, il est parti à 6h du matin et il arrive à 9h du soir. Ça fait quand même un voyage de 15h. Fatigant quand même, hein. On ne ferait pas ça aujourd'hui. Ou alors c'est pour aller très très loin. Enfin, on va à Paris justement, le temps d'aller à Narita, l'avion, et derrière. Là ça fait 15 heures. On a fait près de 11 000 km. Hein. Voilà la différence. Alors, sa maman, on dit à la fin de ce petit paragraphe, était la personne la plus respectée. Bon, donc c'est une personne respectable, une bonne dame de sa région, de son pays, pays au sens régional. Elle sortait d'une vieille famille de gentilshommes, éteinte maintenant, son mari un plébéien que ses parents lui avaient fait épouser. Ça c'est rare aussi, hein. D'habitude les parents sont pas d'accord pour se marier avec un homme du peuple, plébéien, hein, la plèbe, le peuple. Alors son mari donc était mort d'un coup d'épée. Oh. Pendant sa grossesse, on dirait un roman de Dumas, vous voyez. Schlac, un coup d'épée terminé. Bon, pendant sa grossesse, là aussi c'est dur, hein, en lui laissant une fortune compromise. Compromise, ça veut dire qu'il y a déjà des dettes, c'est pas facile pour elle. Hein. Alors, malgré cette situation, donc elle a élevé son enfant, elle reçoit 3 fois par semaine, c'est-à-dire une sorte de petit salon avec des personnalités de la région, c'est pas le, le maire, le notaire, le curé, etc. Bon, voilà. On a vu ça aussi dans Madame Bovary, hein, les gens bien font ça. Et puis, de temps à autre, un beau dîner. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus chic, hein, on sort les verres de cristal, et la dépense est un petit peu plus importante. Mais le nombre des bougies était calculé d'avance, et elle attendait impatiemment ses fermages. Donc c'est quand même pas la grande richesse. Nombre des bougies calculé, parce que pour éclairer, il faut compter, la bougie ça dure tant d'heures, donc on ne va pas dépasser, on n'en achète pas plus, enfin, on contrôle la consommation. Et elle attendait ses fermages, c'est-à-dire que, bon, elle est quand même propriétaire terrienne, d'une certaine propriété, et il y a des fermes avec des métayers qui cultivent et qui payent en quelque sorte leur droit d'habiter, de travailler là. Ce qui s'appelle précisément les fermages. Cette gêne, là le mot est très clair, hein, c'est une gêne financière, pécuniaire, dissimulée comme un vice, la rendait sérieuse. C'est-à-dire que pour qu'on ne voit pas qu'elle est, pas pauvre, mais enfin, limite, guili-guili, il faut rester très sérieuse pour ne jamais laisser un mot sortir. Je dirais, oh pardon, je ne voulais pas dire que j'en ai plus, mais voilà, donc, il faut être très sérieux sur ce sujet. Cependant, sa vertu, cette histoire de sérieuse, c'est précisément l'antithèse de Madame Bovary. Ça, quand même, il faut le dire. Parce que Madame Bovary, c'est la femme qui ne réussit pas à être sérieuse. Si elle avait un petit peu mieux fait attention, elle a essayé elle aussi, hein, puis bon, ça ne marche pas, ça déborde tout le temps, on achète, comme aujourd'hui avec les cartes de crédit. Avec des taux de 27%, on ne peut plus s'en sortir. Hein. Non, c'est pas 27 ? 22 ? 17, pardon. 17. 27, c'est encore pire. Donc, cette gêne, etc. Cependant, sa vertu s'exerçait sans étalage de pruderie, sans aigreur, ses moindres charités, etc., etc. Donc, cette image est très bonne dans la région, et sans doute c'est important pour Flaubert de le dire, parce que elle veut profiter de cette image pour faire la promotion de son fils. Alors, promotion au sens ancien, c'est-à-dire le promouvoir dans le beau monde pour qu'il ait une bonne situation, malgré donc cette gêne pécuniaire de la famille. Et elle a bien raison, puisqu'il était bon à l'école, comme on dit vers le bas de la page 29, grâce à ces moyens, il deviendrait, alors là on rêve hein, au conditionnel, hein, il deviendrait conseiller d'État, ambassadeur, ministre, énumération classique de Flaubert en trois termes, avec pas de « et » avant le dernier. Ses triomphes au collège de Sens légitimaient cet orgueil, il avait remporté le prix d'honneur. D'honneur, on aura les meilleures notes, les félicitations, un petit cadeau sous forme de quelques volumes, peut-être de Guizot, déjà, à cette époque, dont on lui demandera des comptes tout à l'heure. Voilà, alors je reviens au début, à la page 19, nous connaissons maintenant cette situation familiale, vaguement, mais sa maman est dans cette situation. Puis alors, on peut savoir tout de suite qu'il n'a pas de papa. Alors bon, bah là, c'est la critique psychanalytique arrive avec ses grosses chaussures en disant « il n'a pas de papa, donc il ne peut pas réussir dans la vie parce qu'il n'a pas eu d'éducation paternelle, etc. etc. » Pourquoi pas, hein ? Après tout, c'est Flaubert qui a choisi qu'il n'ait pas de père. Le père étant considéré comme le tuteur, celui qui donne en quelque sorte la force de caractère, alors que la mère serait plutôt du côté des sentiments. C'est une mauvaise psychologie, hein, comme on dirait à 3 francs, mais ça correspond quand même à un schéma classique, une attente peut-être de la part de Flaubert, un de ces clichés qu'il affectionnait énormément et dont il voyait à la fois la bêtise et l'intelligence. C'est comme ça en même temps, ensemble. Alors cette somme indispensable, Donc, il était allé au Havre. Alors, le Havre, c'est tout à fait de l'autre côté. C'est le deuxième port de France à cette époque, peut-être à peu près encore aujourd'hui, en taille, hein, en volume d'affaires, disons. Et ça se trouve à l'estuaire de la Seine. Donc, il suffit cette fois de descendre la Seine tranquillement, avec ou sans moteur. Alors, on ne dit pas comment il était allé au Havre, mais probablement en bateau aussi. Il est allé y voir un oncle, et pour cet oncle, alors on ne dit rien du tout sur cet oncle, hein, là il y a une volonté de Flaubert de laisser l'oncle totalement dans l'ombre, c'est la personne dont on peut hériter. On s'en fout complètement, excusez-moi ce langage moderne, on s'en fout complètement qui il est, comment il est, est-ce qu'on l'aime, etc. Le plus important, c'est qu'on peut hériter de lui. Et alors, pour ça, il faut quand même, de temps en temps, le soigner un petit peu, lui montrer de l'affection, même s'il n'est pas dupe, hein, certainement, il voit bien que c'est pour l'héritage. Alors là, un autre topos classique de la littérature, la visite aux parents dont on espère l'héritage. Eh bien, Flaubert nous a épargné ce topos. Nous n'avons pas la scène du Havre, ni avant ni après, et c'est tant mieux, parce que tout le monde sait comment elle est. On imagine le comportement, ça, un petit peu mielleux, gentil. Alors, mon oncle, comment allez-vous aujourd'hui ? Oh, là, là, là. Bon, on a vu ça dans des films aussi, hein, bien sûr. Et le point important, donc Flaubert enlève tout et il ne laisse que le squelette, hein, moral de la chose dont on espérait pour lui l'héritage. Alors ce mot héritage, je vais vous distribuer les feuilles tout de suite, comme ça, si j'oublie après la pause, on verra du temps. Voilà, alors, je vais essayer de finir en quelque sorte le survol de ce premier chapitre en me focalisant sur les deux éléments importants, c'est-à-dire la rencontre avec M. Arnoux et la rencontre avec Mme Arnoux. D'abord séparément, sans savoir qu'ils sont le mari et la femme. Donc, à la page 20, après ce que j'ai lu tout à l'heure, on a une présentation, disons, générale de la vie sur le bateau avec différentes sortes de passagers, le fonctionnement, la manœuvre, etc. Si on avait le temps, on pourrait le faire. Je retiens quand même à peu près aux deux tiers de la page 20, lorsqu'il fait la description, l'énumération de ce qu'il y a sur les berges, comme ça, avec des mots au pluriel, et donc il y avait des maisons, des jardins, des grilles de fer, des gazons, des serres chaudes, des vases de géranium, etc., etc. Plus d'un, c'est-à-dire plus d'une personne, hein, beaucoup de gens, en apercevant ces coquettes résidences, si tranquilles, enviaient d'en être le propriétaire pour vivre là jusqu'à la fin de ses jours, avec un bon billard, une chaloupe, une femme ou quelque autre rêve. Alors bon, c'est une sorte de vision un peu ironique d'un idéal petit bourgeois, hein, c'est même pas bourgeois ni petit bourgeois, d'avoir cette petite maison et d'y vivre tranquillement. Bon, en même temps, pourquoi pas, hein. C'est d'ailleurs un peu toujours comme ça lorsqu'on passe sur les berges de la Seine aujourd'hui. Parce que mon papa habite dans la commune de Hyères, qui se trouve au bord d'une petite rivière, pas très loin de cette région, et il y a toujours ces petites maisons comme ça, de gens qui vivent tranquillement. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Ça veut dire aussi que ces gens sont fixés, ils habitent là, et c'est quelque chose de contrastif avec le mouvement du bateau, hein, de quelqu'un qui va du Havre à Nogent et qui voit, au contraire de lui, ces gens fixés. Ce jeune homme n'est pas fixé, ni sur sa situation, ni sur son avenir. Alors l'ambiance commence à s'installer, et puis en haut de la page 21, précisément là pour cette édition, il vit un monsieur qui contait des galanteries à une paysanne tout en lui maniant la croix d'or qu'elle portait sur la poitrine. C'était un gaillard d'une quarantaine d'années à cheveux crépus. Sa taille robuste emplissait une jaquette de velours noir, deux émeraudes brillaient à sa chemise de batiste et son large pantalon blanc tombait sur d'étranges bottes rouges en cuir de Russie rehaussées de dessins bleus. La présence de Frédéric ne le dérangea pas, il se tourna vers lui plusieurs fois en l'interpellant par des clins d'œil. Ensuite, il offrit des cigares à tous ceux qui l'entouraient. Mais, ennuyé de cette compagnie, sans doute, il alla se mettre plus loin. Frédéric le suivit. Donc, parmi la foule des gens qui sont là, il remarque un individu un peu spécial, un peu étrange, et qui est d'abord caractérisé par, on va dire sa grandeur, hein, il a l'air d'être plus grand que d'autres gens, mais surtout son costume. Son costume qui est formé une jaquette de velours noir, donc c'est une veste, hein, deux émeraudes à sa chemise de batiste, donc émeraude c'est rouge, et puis la chemise, alors batiste, c'est une toile de lin assez chic. C'est du tissu qui coûte un peu cher. On verra tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si on aura le temps, mais on l'oppose à calico, qui est un tissu assez grossier de coton que portent des ouvriers, plutôt, puisque à la page suivante, au milieu de la page 22, il dit « Comme on avait coutume alors de se vêtir sordidement en voyage, presque tous portaient, etc. etc. » C'est-à-dire que la plupart des gens sont mal habillés volontairement pour avoir l'air plus modeste, pour ne pas se faire voler quelque chose. Un peu comme aujourd'hui, on dit à nos étudiants, hein, quand vous allez à Paris, ne mettez pas tous vos bijoux et sacs Vuitton, etc. Un peu la même chose, quoi, dans ce genre. Alors, cet homme-là, lui, au contraire, il porte sa chemise, donc pas très différent. Et un large pantalon blanc avec d'étranges bottes rouges en cuir de Russie. Ça veut dire du cuir très solide. Cuir de Russie, c'est devenu populaire depuis les campagnes napoléoniennes. C'était déjà connu avant, mais ça veut dire un cuir très solide, très, très résistant. Rehaussé de dessins bleus. Alors, qu'est-ce qui est rehaussé de dessins bleus? C'est le pantalon ou les bottes? Je pense que c'est les bottes plutôt. Donc aujourd'hui en France, on dirait plutôt des Santiago. Vous connaissez le mot Santiago? C'est un mot tout à fait du vocabulaire français. C'est une espèce de bottes à talons coupés, plutôt d'origine américaine et pointues. Une espèce de bottes de cow-boy. Ça m'a fait penser à ça. Je pense que c'est pas ça, mais transposé, disons, aujourd'hui, il aurait des Santiago. Alors quand même, au passage, je remarque que le pantalon est blanc, les bottes sont rouges et les dessins sont bleus. C'est pas vert, c'est pas jaune, c'est bleu, blanc, rouge. Et au milieu de la page, le paragraphe suivant, c'est « Il était républicain ». C'est signé, hein. C'est marqué sur son costume. Voilà un individu donc étrange, dont le comportement, l'attitude est assez spéciale aussi. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'on le voit la première fois? Il est en train de parler à une paysanne, on va dire un dragueur, hein, qui essaye de draguer une fille, petite paysanne. C'est pas nouveau. En lui maniant la croix d'or qu'elle portait sur la poitrine. Alors on imagine qu'elle a une croix comme ça, puis lui il s'approche comme ça, puis il regarde sa croix, il la prend, il la tourne. Moi, j'imagine pas, personnellement, d'aller parler à quelqu'un et de tripoter son bijou comme ça. Donc, il y a une sorte de sans-gêne, précisément, on dit en français, hein, le sans-gêne, de cet individu. On peut le prendre d'ailleurs comme un terme général hein, pour qualifier M. Arnoux. Il est sans gêne. Et donc il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il dépense comme il veut, il parle à sa femme ou à ses domestiques comme il veut, une sorte de mini seigneur à l'ancienne, comme ça, et qui en même temps est à la fois, là encore très classique chez Flaubert, intelligent et bête. Très important pour Flaubert, on ne peut pas être soit très intelligent, soit très bête. Ça va ensemble. Et donc c'est valable pour nous aussi, selon Flaubert. On est comme ça, c'est la nature humaine presque. Donc voilà cet homme, alors la présence de Frédéric, etc. Et il s'écarte et Frédéric le suivit. Donc on a là un premier mouvement, disons, pour aller faire la conversation hein, avec cet homme, plutôt qu'avec d'autres qui n'ont pas l'air intéressants pour Frédéric. Je lis la suite. La conversation roula d'abord sur les différentes espèces de tabac, puis, tout naturellement, sur les femmes. Bah tiens. Le monsieur en botte rouge donna des conseils au jeune homme, il exposait des théories, narrait des anecdotes, se citait lui-même en exemple, débitant tout cela d'un ton paterne, avec une ingénuité de corruption divertissante. Il était républicain, il avait voyagé, il connaissait l'intérieur des théâtres, des restaurants, des journaux et tous les artistes célèbres qu'il appelait familièrement par leur prénom. Frédéric lui confia bientôt ses projets, il les encouragea. Voilà donc cette rencontre entre nos deux personnages qui va durer très très longtemps dans le livre, avec très souvent cette attitude d'Arnoux, qui sera connu un peu mieux par la suite, mais qui ne sera jamais guère différent de ce qu'il est maintenant. Pas beaucoup de changements par la suite. Comment on peut le qualifier ? Flaubert essaye, à la fin du paragraphe du milieu, débitant tout cela d'un ton paterne, avec une ingénuité de corruption divertissante. Alors voilà trois mots un petit peu difficiles à situer, et qui, au lieu d'être descriptifs, physiques, sont de caractère moral ou psychologique, et c'est plus difficile. Alors, un ton paterne, je suis à page 21, hein, je descends du trop bas. Voilà. Un ton paterne, dans paterne, vous reconnaissez pater et paternel, donc c'est un peu à la façon d'un père, quelqu'un qui a autorité sur vous, et qui vous parle comme un père parlerait à son fils. Ça veut dire aussi avec une certaine gentillesse. Et une ingénuité de corruption divertissante. Qu'est-ce que c'est que ça, une ingénuité de corruption ? Alors d'abord, ingénuité. Ingénuité, précisément dans le dictionnaire, on nous dit franchise, innocente et naïve. Franchise, il est franc, il parle franchement. Et cette franchise, elle est innocente. Et elle est en quelque sorte naïve. C'est pas quelqu'un qui calcule ce qu'il va dire. Il dit les choses comme ça, avec une espèce de naïveté. Mais ce qu'il dit est de nature correspondant justement à corruption. Alors corruption, tout de suite, on pense corruption de fonctionnaires, etc. Bon, corruption précisément, indécence du dictionnaire, au sens moral, disons, dégradation de ce qui est sain, honnête, et constitue une valeur morale. Ça veut dire que cet individu, il parle des choses qui sont des valeurs morales, mais il en parle d'une façon dégradante, d'une façon méprisante ou insultante, mais comme si c'était quelqu'un de naïf. Donc c'est assez amusant. Parce que il ne critique pas, il n'est pas méchant, il fait ça très naturellement, et c'est plutôt drôle, finalement, pour Frédéric bien sûr, c'est un divertissement pendant ce long temps à passer sur le bateau. Pourquoi pas écouter cet homme-là plutôt que regarder des ouvriers ou des paysannes. Ça a l'air plus amusant. Il était républicain, donc voir les couleurs. Il avait voyagé, il connaissait l'intérieur des théâtres d'antan, etc. Alors, dans mon oreille, il y a toujours ce début d'un chapitre. Il voyagea, il connut l'ennui des paquebots. Tout le monde le connaît, on a entendu ça partout. Où est-ce que ça se trouve ? Ça se trouve à la troisième partie, chapitre 6, c'est-à-dire page 509. Alors, regardez page 509. On finira dans 10 semaines avec cette page-là. Ça commence par « Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. » Il y a donc une similitude exacte de structure et de verbes principaux. Le verbe « voyager » suivi du verbe « connaître ». Le verbe « connaître » suivi d'une énumération, monsieur, c'est troisième partie, chapitre 6. Ça, c'est la Pléiade. Hein. Donc, une énumération de quatre termes dans les deux cas. En effet, page 509, il connut 1. La mélancolie, 2. L'effroi, 3. L'étourdissement, 4. L'amertume. Énumération de quatre éléments. À la page 21, il était républicain, il avait voyagé, donc c'est le même verbe, mais ce n'est pas le même temps, bien sûr. Il connaissait, alors, 1. L'intérieur des théâtres, 2. Des restaurants, 3. Des journaux, 4. Et tous les artistes, qu'il appelait familièrement par leur prénom. Bon, même si Flaubert a des manies d'écriture, on ne peut pas imaginer que c'est par hasard que cette similitude de forme se produit ici. En quelque sorte, Frédéric est un recommencement à la génération suivante de ce qu'a pu être peut-être M. Arnoux jeune, 20 ans avant. On imagine que M. Arnoux jeune, lui aussi, il était comme Frédéric aujourd'hui. Et puis bon, bah, la vie a fait comme ça, etc. Et donc, il a voyagé, il a, etc. Bon, c'est une hypothèse, mais ça permet, disons, de trouver une sorte d'explication à cette similitude de forme des paragraphes. Est-ce que on peut aller jusqu'à dire que Frédéric va trouver une sorte de père, second père, dans l'absence de son vrai père, avec M. Arnoux? Pourquoi pas? Mais alors je laisse cela tout à fait à votre entière appréciation. Hein, c'est une possibilité que Flaubert n'a ni éclairci, ni refusé, ni rien. C'est le lecteur qui se débrouille avec sa conscience. En bas de la page 21, Frédéric éprouvait un certain respect pour lui et ne résista pas à l'envie de savoir son nom. L'inconnu répondit tout d'une haleine, Jacques Arnoux, propriétaire de l'art industriel, boulevard Montmartre. C'est-à-dire tout ensemble, comme ça. Alors ce « tout d'une haleine », je ne peux pas l'entendre sans penser à Charles Bovary, hein, qui dit son nom dans la classe en attachant les deux mots et personne ne comprend ce qu'il a dit. Bon, Arnoux a une sorte de relation de famille avec Charles Bovary, quelque part dans la galerie de portraits des personnages de Flaubert. Ils sont plus ou moins frères ou cousins. Jacques Arnoux, propriétaire de l'art industriel, boulevard Montmartre. Enfin, j'y suis arrivé, comme lui. Bien, alors j'ai vérifié ce nom de Jacques Arnoux, il n'y a rien de spécial, sinon que vers 1838, il y aurait un monsieur Arnoux qui a déposé un nouveau système de roues, d'écartement des roues des trains. Bon, c'est pas extraordinaire, il n'y a pas d'origine particulière du nom dans l'histoire précisément. Propriétaire de l'art industriel. L'art industriel, dans mon esprit, ça fait une sorte de contradiction. Parce que pour moi, l'art, c'est une création, c'est une œuvre nouvelle. Et puis, au contraire, industriel, c'est ce qui se reproduit, c'est ce qui se mécanise. Alors, automatiquement, ça me fait penser à Walter Benjamin. Walter Benjamin écrit dans les années 1930 un livre très connu, aujourd'hui étudié à l'université, qui s'appelle « De la reproductibilité des œuvres d'art », ou un nom comme ça. C'est-à-dire l'œuvre d'art dans sa nature de possiblement reproduite par un procédé mécanique. Ce qui est une nouveauté, évidemment, même si Benjamin a commencé par dire que, en effet, l'art peut être reproduit, mais reproduit à la main, pièce par pièce, ça prend des mois ou des années. Sauf que on arrive à une époque où, grâce à la photographie, bien sûr, on peut faire cette reproduction mécaniquement. Et là, ça change tout à la nature de l'œuvre d'art. Donc Walter Benjamin, 1930 et quelques. Et de l'autre côté, ça me fait penser à Jacques Derrida et le concept chez Derrida permanent de l'événement et de la machine. L'événement, c'est ce qui est nouveau, qui sort, qui est extraordinaire, et la machine, c'est ce qui répète toujours la même chose. Alors, Flaubert a déjà, dans le titre même de l'art industriel, il a déjà inventé Benjamin et Derrida, en quelque sorte. Hein. C'est, bon, sans doute à l'époque, c'était quelque chose qui apparaissait et que Flaubert a senti arriver. Cette reproductibilité de l'œuvre d'art qui ne sera pas de tout repos pour M. Arnoux. Hein. Au début, ça a l'air de bien marcher, mais ça ne dure pas très longtemps. Alors, passons à la rencontre. Oui, alors, page 22. Bon, l'art industriel était un établissement hybride. Justement, cette hybridité qui est dans son nom même. On peut passer à la rencontre avec Madame. On a passé le milieu de la journée, le midi, hein, en haut de la page 22. Le troisième paragraphe commence par « Le soleil dardait d'aplomb ». Dardait, hein, ça veut dire qu'il chauffe très fort, et d'aplomb, c'est juste au-dessus. Donc ça doit être midi. Le temps passe. Voilà, on fait la description des personnes. Vous avez la chemise de calicot au milieu du grand paragraphe en bas de la page 22. Calicot, donc c'est le mauvais coton, opposé à Baptiste, le beau tissu de M. Arnoux. Et puis, donc, on arrive à la page 23, quand Frédéric revient dans les premières. Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc, toute seule, ou du moins elle ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules, et quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle, ses bandeaux noirs contournant la pointe de ses grands sourcils. Descendait très bas et semblait presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose. Et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpaient sur le fond de l'air bleu. Alors cette rencontre, c'est d'abord une vision. Et sous la forme décrite par le mot « apparition ». Apparition, c'est donc quelque chose de surnaturel, lié à la religion, comme la Vierge apparaît à différentes personnes dans l'histoire. J'ai voyagé cet été moi-même dans le centre de la France et j'ai vu quelques églises où on avait des vierges noires qui étaient liées à des visions de personnes dans les siècles passés, ce fut comme une apparition. Alors bien sûr, cette phrase est une sorte de rupture par rapport à la description du bateau. Opposé à ces choses très terre-à-terre, à ces gens qui sont là pour travailler, pour voyager, etc., une apparition. Deux points, et le paragraphe qui suit. Alors, les deux points, là encore, sont en quelque sorte en difficulté avec la grammaire. Les deux points font normalement partie d'une phrase, et la suite de la phrase se trouve après les deux points, qui doit se finir par un point. Bon, ben là, vous avez deux points, et après, vous avez un paragraphe. C'est comme ça, avec Flaubert. Alors, elle était assise, bon, vous avez bien compris la situation. Alors, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. Ça veut dire que ce ne sont pas ses yeux qui voient quelque chose. Hein, les yeux n'ont pas fait leur travail habituel de voir quelque chose. Ses yeux ont reçu quelque chose. Donc, il a reçu cette vision. Hein, donc, c'est l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. Alors, ses yeux reçoivent, et ensuite, son cerveau, comme on dirait aujourd'hui, est flashé par cette lumière éblouissante. Bon, façon de décrire l'apparition au sens de l'apparition de la Vierge. Alors en fait, si on pense tout de suite à l'apparition de la Vierge, on peut déjà savoir comment le livre va finir. C'est-à-dire que on ne devient pas l'amant de la Vierge, on ne couche pas avec elle, on ne la touche même pas. Et en effet, ici vous allez avoir un peu plus loin, leurs yeux se rencontrèrent. Et vous allez attendre 400 pages pour avoir leurs mains se serrèrent. Et c'est tout ce qui se passe entre elle et lui. Hein, c'est le vide sidéral du roman que Flaubert voulait remplir ou explorer par l'écriture. Donc pour moi, ce roman se passe entre ces deux marques, ces deux balises. Leurs yeux se rencontrèrent et 400 pages plus loin, au dernier chapitre où ils sont ensemble, leurs mains se serrèrent. Même forme hein, de phrase avec un verbe sans complément. Et voilà. Alors bien sûr, là aussi, Flaubert l'a fait exprès, hein, comme on a vu tout à l'heure. On suppose en tout cas. Elle avait un large chapeau de paille des rubans, bon ça c'est la description. Alors cette description, on vous dit, alors dans cette édition vous avez une petite plume comme ça, et voir au fil du texte page 11. Bon, allons-y, hein, profitons-en, puisque le travail est déjà fait. Page 11, on va trouver, donc c'est tout à la fin dans la partie grise, hein, des pages grises, vous avez des chiffres romains, et à la page 11, vous avez grand 2, lire, et on retrouve la petite plume avec le numéro 1, ce fut comme une apparition. Et on explique, voilà, on pourra comparer ce texte à l'évocation de l'Elisa Schlesinger dans une œuvre de jeunesse de Flaubert, Mémoire d'un fou, 1838, et vous lirez le texte, vous verrez la similitude, je ne le fais pas parce que on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, il y avait autre chose. Un peu plus loin dans ce dossier, à la page 20, donc après, à la page 523. Donc vous continuez quelques pages, vous avez page 523, la rencontre avec Maria. Et c'est un passage un peu plus long des Mémoires d'un fou. Voilà, donc après la page 20 en chiffres romains, vous retrouvez des chiffres arabes et la page 523. Hein, vous avez le début du dossier historique, comme ça, avec la table. Et à la page suivante, c'est la rencontre avec Maria, donc la même Maria Schlesinger, et un petit paragraphe qui présente cette rencontre qui se passait à Trouville, etc., etc. Donc ça veut dire que ici, au début de l'éducation sentimentale, Flaubert évoque cette rencontre sous forme d'une apparition type Vierge Marie. D'ailleurs, elle s'appelle Marie, bon, on ne peut pas la rater. Et en même temps, il reprend un épisode de sa propre vie, à peu près quand il avait le même âge, un tout petit peu moins, je crois qu'il avait 16 ans, quand il avait vu cette Maria Schlesinger. Donc ça lui permet quand même de retrouver cette scène, de la remettre, ça devait lui tenir à cœur, hein, ayant été très très ému par cette femme, à cette époque déjà lointaine pour le Flaubert des années 1860. Alors bon, on le voit un petit peu manœuvrer hein, pour se rapprocher d'elle, après le milieu de la page 23. Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre. Bon, vous voyez le garçon qui s'approche, l'air de rien, et hop, il va venir, enfin, il va attendre l'occasion, disons, de lui parler. D'ailleurs, il utilisera lui-même tout à l'heure l'expression, page 26, en bas de la page 26, hein, il faut synthétiser un peu cette rencontre. En bas de la page 26, vous avez un début de dialogue, enfin de dialogue intérieur, de monologue intérieur. « Va-t-elle enfin me parler ?» Et juste avant, à propos du châle, il se demande, non, c'est la petite fille, voilà, la petite fille, elle se cacha derrière sa bonne, sa mère la gronda, etc. Était-ce une ouverture indirecte ? Était-ce une ouverture indirecte ? Alors aujourd'hui, les jeunes garçons qui essayent comme ça de s'approcher des filles, ils utilisent exactement le même vocabulaire. Ils disent « j'ai une ouverture ». Et on utilise le même terme en football, en rugby, hein, pour un joueur qui va pouvoir passer entre les autres. Avoir une ouverture. Alors à ce moment-là, Matsugu, on y va, hein, on attaque. Bon, c'est un jeune homme, c'est tout à fait normal pour son âge. Néanmoins, il va savoir très rapidement que cette femme a un enfant. Donc c'est comme la Vierge Marie, elle a déjà un enfant et on l'aime. Alors ensuite c'est la finesse, en bas de la page 23, la splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Vous pouvez remarquer que Flaubert a inversé l'ordre, disons, traditionnel des termes. D'habitude, on nomme la partie du corps et on lui met une qualification. Alors, on dit « sa peau brune était splendide », par exemple. Et bien là, il a antéposé et nominalisé l'adjectif « splendide » sous forme de « splendeur ». C'est-à-dire qu'on a une inversion et on a d'abord la qualité comme quelque chose de en quelque sorte miraculeux. Et ensuite, c'est une partie du corps. La splendeur de sa peau brune. La séduction de sa taille. Ce n'est pas une taille séduisante. C'est la séduction de sa taille. Inversion et renforcement de la qualité. Et bien sûr, cette finesse des doigts. Donc elle n'a pas les doigts fins, hein, mais elle a cette finesse des doigts. Que la lumière traversait, bon ben... Comme c'est la Vierge Marie, c'est normal, hein, elle est dans la lumière. Alors ensuite, question rhétorique, hein, c'est la question qu'on se fait à soi-même. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé, il souhaitait connaître, etc. Donc là, c'est une sorte d'émotion romantique, hein, de totalisation de la femme et de vouloir la connaître totalement, qui est une illusion complète, hein. On ne connaît jamais complètement les gens. Je passe, et au milieu de la page 24, cette fois c'est bien le châle qui tombait et qui l'a ramassé. « Je vous remercie, monsieur, leurs yeux se rencontrèrent. » Alors pour ce qui est de ramasser quelque chose, vous pouvez vous souvenir dans Emma Bovary, c'était beaucoup moins poétique. C'était la cravache du docteur qui était tombée derrière un fauteuil et Emma se baissait d'une façon assez excitante, on peut dire, et en se relevant aussi. Hein, donc c'était la rencontre. Là, c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus marial, hein, au sens de la Vierge Marie. Je vous remercie, monsieur. Leurs yeux se rencontrèrent. Ma femme, es-tu prête ? Oh mince ! Elle est mariée, cria le sieur Arnoux, apparaissant dans le capot de l'escalier. Alors je crois que Flaubert a fait exprès, presque de façon burlesque, hein, au sens burlesque des fables burlesques. L'apparition, le truc très doux, très soft, etc. Il arrive à attraper le châle, il lui rend, enfin, c'est bon, quoi, tout est bon. Et l'autre arrive, « Ma femme, es-tu prête ?» C'est du Molière. Hein. Là, Flaubert nous a bien eu. Mademoiselle Marthe courut vers lui, cramponnée à son cou, elle tirait ses moustaches. Donc là, voilà, toute la vulgarité du monde revient devant les yeux de Frédéric. Voilà. Alors, je laisse tomber la suite, parce qu'on n'a pas de temps, pour regarder avec vous un peu cette histoire du mot, l'aventure d'un mot, héritage. Comme d'habitude, hein, de toute façon, on ne lira pas tout le texte ensemble, on ne fera que des petits bouts, et les petits bouts que l'on fera, on essaiera de les faire bien. La semaine prochaine, ça sera le chapitre 2. Alors, l'aventure d'un mot, héritage. Et donc, je vous ai rajouté le nom du site. Vous pouvez vous-même aller dans ce site, trouver l'éducation sentimentale. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres œuvres, même françaises. Et si ça vous intéresse, vous en explorerez d'autres. Le mot héritage a 6 occurrences qui sont rassemblées ici, sous la forme de ce qu'on appelle une concordance. Voilà, la liste des occurrences d'un mot, avec le mot comme ça verticalement aligné, ça s'appelle une concordance. Cette concordance, elle permet sur le site internet de cliquer sur la partie à gauche, hein, 1,1 ou 1,4 ou 2,1. Alors c'est première partie chapitre 1, première partie chapitre 4, deuxième partie chapitre 1, etc. Et à la fin de la ligne, j'ai rajouté le numéro de la page dans notre édition, donc vous pouvez l'utiliser pour les retrouver. Et bien sûr, ce sont les mêmes qui sont ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette fois, c'est pas la concordance, c'est le contexte. Hein, ça s'appelle le contexte. Alors, le numéro 1, vous le connaissez. Le numéro 2... Des Lauriers avait enfin arraché tout l'héritage de sa mère, 7000 francs nets qu'il tenait là sur lui dans un vieux portefeuille. Alors on ne connaît pas le contexte général, hein, de Des Lauriers, on verra la semaine prochaine, mais on peut remarquer quand même que dans le numéro 2, héritage est associé au verbe arracher. Un héritage, ça s'obtient, ça se reçoit, mais peut-être aussi ça s'arrache. Alors, c'est quand même assez désagréable, hein, pour le mort, disons. Numéro 3, Frédéric allégua un long procès à la santé de sa mère, il insista beaucoup là-dessus. Bref, il se fixait à Paris définitivement cette fois, et il ne dit rien de l'héritage dans la peur de nuire à son passé. Alors cet héritage, c'est le sien, bien sûr, et je vous l'ai mis ici en grand contexte sur la page de droite. Mot de la même famille, c'est le verbe hériter, il héritait. Alors, ce il héritait, ça se situe donc à la fin de la première partie, au chapitre 6. Hein, c'est vraiment dans la structure du roman quelque chose de très très important. L'héritage arrive et la situation de Frédéric va changer complètement. Donc, comment il hérite ? Eh bien, justement, vous voyez là au milieu de la page, il reçoit une lettre Justice de paix du Havre. Tiens, le Havre, ça sonne comme l'oncle. Hein. Monsieur Moreau, votre oncle, étant mort ab intestat, c'est-à-dire sans héritier. C'est pas la peine de lire la suite de la lettre. Hein. On conclut directement. Il héritait. Alors ce « il héritait », c'est une sorte de monologue intérieur, discours indirect libre, grande spécialité de Flaubert. Il héritait. Comme si un incendie eût éclaté derrière le mur, il sauta hors de son lit, pieds nus, en chemise, il se passa la main sur le visage, etc. Voilà, c'est merveilleux. Il relut la lettre 3 fois de suite, rien de plus vrai, toute la fortune de l'oncle, 27 000 livres de rente. Et une joie frénétique le bouleversa à l'idée de revoir Madame Arnoux. Automatiquement, la réception de l'héritage correspond à la possibilité de revoir Madame Arnoux. Ça, c'est pour lui directement associé. Ça veut dire, bien sûr, vivre à Paris, avoir le train de vie, hein, c'est-à-dire la vie bourgeoise, le carrosse, les chevaux, la maison, la vaisselle, enfin, tout ce qu'il faut, pour être sur le même pied de bourgeoisie avec Madame Arnoux, et donc pouvoir la revoir. Parce que si on est vraiment un pauvre petit malheureux provincial, il n'y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Donc, voilà ce qui s'offre à lui. Donc ce « il héritait » est à la fin de la première partie. Et la troisième occurrence ici de héritage se trouve au début, au premier chapitre de la deuxième partie. Donc, après ce texte-là. Ça veut dire que lorsqu'il voit des gens après avoir hérité, il cache son héritage. Ça dépend de qui, hein, évidemment. Bon, c'est un peu comme aujourd'hui, hein, les gens qui ont gagné au loto, Takalakuji, 200, 500 millions de yens, ils vont pas le dire à tout le monde. Hein. Ils sont obligés de se cacher. Quoi. Numéro 4. Puis d'un air enjoué, mais j'oublie que je parle à un capitaliste, à un mondeur. Alors, cette fois, l'héritage devient un élément moral et légal. Revenant sur l'héritage, il exprima cette idée que les successions collatérales, chose injuste en soi, bien qu'il se réjouît de celle-là, seraient abolies un de ces jours à la prochaine révolution. Tu crois, dit Frédéric ? Compte dessus, ça ne peut pas durer, on souffre trop quand je vois dans la misère des gens comme Sénécal. Ouh là là ! Alors là, on sort du cadre de l'héritage, hein, de Frédéric. Et on passe dans le cadre général. Qu'est-ce que c'est l'héritage dans la société, et en particulier l'héritage collatéral? Alors, aujourd'hui, vous connaissez le terme « collateral damage », c'est-à-dire pas direct, mais à côté. Alors, l'héritage du fils, c'est normal, mais l'héritage du neveu, du cousin, de là, ça, c'est pas normal. Donc, c'est collatéral. Et alors, qu'est-ce que c'est que cet héritage collatéral? Dit Deslauriers, hein, c'est Deslauriers qui passe son agrégation de droits, qui la rate d'ailleurs magistralement, mais bon, il est un petit peu trop presque anarchiste, hein, Deslauriers. Hein, c'est, oulala, il faut tout casser, tout renverser. Et alors, pour Deslauriers, l'héritage collatéral, c'est quelque chose presque de criminel. Parce que un jeune garçon comme Frédéric, qui n'a rien fait, qui ne vaut rien, qui ne mérite rien, d'un seul coup, il reçoit plein d'argent. Cet argent ne correspond pas à un travail et ne va servir à rien pour la société parce qu'il va le dépenser stupidement. Ce qui est exactement ce que Flaubert met en scène, hein, précisément. Donc, Deslauriers a complètement raison, selon le roman de Flaubert. Je ne sais pas si c'est l'opinion de Flaubert, mais Deslauriers dit exactement la vérité. Alors, petite parenthèse, chose injuste en soi, bien qu'il se réjouit de celle-là. Donc, pour toi, tu es mon copain, ça va. Mais, d'une façon générale, il faudra que ça disparaisse, ces héritages-là. C'est-à-dire, comme il y a des gens pauvres, ça veut dire qu'il faut que l'argent des gens morts qui n'ont pas directement de fils ou de filles doit aller à une sorte, je ne sais pas, de resto du cœur, de caisse générale pour aider les pauvres. On est en plein communisme, quasiment. Un petit peu à l'époque de Marx, quand même, même si Flaubert n'a sans doute pas lu. Numéro 5, bien, c'est beaucoup plus discrètement, mais Frédéric dit à Madame Moreau qu'il a obtenu un héritage. Madame Arnoux. Oui, pour une affaire de famille, un héritage. Ah, j'en suis bien contente, reprit-elle avec un air de plaisir tellement vrai qu'il en fut touché comme d'un grand service. Donc, elle comprend bien la valeur de cet héritage. Et enfin, la dernière occurrence, c'est tout à la fin du livre. Donc là, les choses deviennent gravement dégradées pour plusieurs personnages, y compris pour Madame d'Ambreuse. Madame d'Ambreuse qui attendait l'héritage de son mari, le grand monsieur d'Ambreuse. Et lui, il a tout donné à quelqu'un d'autre, sa fille Cécile, je crois. Et alors, donc, la perte de son héritage l'avait considérablement changé. Parce que là, étant l'épouse, elle devrait hériter aussi. Donc là aussi, il y a des problèmes. Alors, j'ai choisi ce mot parce que, même s'il n'y en a pas beaucoup dans l'ensemble du livre, on peut voir que c'est une notion à la fois dans l'histoire du personnage, Frédéric, qui structure sa vie, et en même temps qui structure le récit. Première, deuxième partie, c'est séparé par l'héritage et le changement de situation que permet cet héritage. Héritage qui était annoncé dès la première page, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment très important. Et puis, d'un point de vue plus profond, social, l'héritage, comme tradition, semble être un point important, disons, d'un changement possible dans le fonctionnement des institutions nationales. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut arrêter? Alors, héritage est quand même de la famille de héritier, dans le champ de patrimoine, c'est-à-dire quelque chose qui vient en massivement de l'ancien régime, de ce que l'on donne et de ce que l'on transmet quand on a les moyens aristocratiques, pécuniaires. Et le nouveau régime dans lequel on est maintenant, même s'il y a encore Louis-Philippe, bon, globalement les choses ont changé, qui est beaucoup plus basé sur le travail et la valeur du travail, du nouveau monde. L'héritage serait à cette frontière entre ancien monde, ancien régime et nouveau monde, nouvelle situation sociale, comme ça, comme filigrane ou petit fil à l'intérieur du roman de Flaubert. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore quel mot je trouverai la semaine prochaine. C'est l'aventure d'un mot. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.